Mes très chers auditeurs, je vous retrouve pour notre dernière émission de la journée. Alors on va aborder un sujet encore une fois passionnant, c'est l'hypnose pour les enfants. Et tout au long de cette émission, j'ai la chance d'être accompagnée de mon très cher Emmanuel Carrière.
Rebonjour Nathalie.
Tout va bien.
Tout va bien.
Alors, tu nous as ramené une de tes collaboratrices de l'école centrale d'hypnose. Alors on a le plaisir d'avoir Bénédicte Zuninonodo. Bonjour Bénédicte.
Bonjour.
Alors, tu travailles au sein de l'école qui est dirigée par le très connu Danny Dan de Bex, qui viendra quand même avant la fin du salon nous dire un petit mot au micro.
Ah, demain.
Il faut qu'on le fasse venir, ce Danny Dan. Alors, ma chère Bénédicte, raconte-nous, quel a été ton parcours avec l'hypnose ?
Oh, il y a fort longtemps que j'ai commencé, il y a une trentaine d'années. J'avais découvert l'hypnose pour moi et pour mon mari. Et c'était une révélation, puisque lui était insomniaque, je l'étais également. Donc, l'hypnose avait énormément apporté. Donc, étant très curieuse, j'ai voulu voir un petit peu ce qu'il en était. Par conséquent, j'avais sympathisé avec ma thérapeute, ma cure finie, on va dire. Et j'ai découvert le parcours qu'elle avait fait. Par conséquent, je l'ai fait. Ça m'a beaucoup intéressée. Et de fil en aiguille, je me suis réorientée. Et après, j'ai fait psycho. Et après, j'ai refait tout un tas d'outils. Et je suis revenue à l'hypnose il y a quelques années.
D'accord, donc c'était tout un revirement professionnel.
Ah, carrément, j'étais pas du tout dans ce domaine.
Alors, explique-nous, tu t'es spécialisée, il me semble, dans l'accompagnement des enfants.
Oui.
Alors, comment est-ce que c'est venu ?
C'est venu le jour où j'ai rencontré un médecin, un Américain, qui était venu à Paris et qui avait fait toute une formation que j'avais suivie, parce que ça m'avait intriguée, sur la psychologie pré-périnatale. Et ça a vraiment été une révélation pour moi de percevoir que l'impact émotionnel, même au niveau de la vie fœtale, avait une incidence sur le vécu d'un enfant plus tard. C'est-à-dire que tout ce qui est impact émotionnel, voire trauma, commence dans la vie intra-utérine. Plus après l'accouchement, plus le temps de gestation qui est quand même relativement long, il peut se passer plein de choses, hein. Il y a des femmes qui vivent des deuils, etc. Donc il y a forcément un impact émotionnel dans la plupart des cas. Et ensuite, jusqu'à l'âge de 3 ans, puisque l'enfant est une éponge, et donc il est complètement sur son émotionnel. Par conséquent, il prend. Et donc évidemment, lorsque l'enfant est en fin de maternelle, commence à rentrer en CP, parfois c'est là que les troubles commencent à apparaître. Donc cette découverte de l'impact émotionnel sur la toute petite vie de l'enfant, voire vie fœtale, a été pour moi quelque chose d'extraordinaire. Et donc j'ai évidemment creusé tout ça, j'ai repris des cursus pour approfondir. Et je dois dire que ça m'aide considérablement lorsque je travaille avec un enfant, parce que son vécu émotionnel me donne une grille de lecture sur ce que je vais pouvoir lui apporter dans le cadre de la thérapie.
Alors, de 0 à 3 ans, est-ce qu'on peut dire que l'enfant reçoit la majorité de ses conditionnements ?
Absolument. Absolument. Jusqu'à l'âge de 3 ans, l'enfant est déjà globalement, avec tout ce qui va le manipuler, entre guillemets, hein, dans le bon sens du terme, sa vie durant. Hein, si nous ne faisons rien, par exemple, nous savons que nous passons différents stades, hein, stade psychotique, névrotique, etc. Et tout cela a une incidence. Donc quand ça se passe gentiment, bon ben il n'y a aucun souci, hein, l'enfant se construit avec sa personnalité, avec ce qui est lui en fait. Hein. En revanche, lorsqu'il y a des traumas ou de mauvais accompagnements, parce que malheureusement ça peut arriver, hein, il y a encore énormément d'enfants en maltraitance, eh bien cela a un impact, mais qui ne se voit pas forcément tout de suite. Parfois oui, parfois non.
Alors, Emmanuel, est-ce que toi, la sphère des enfants, c'est quelque chose auquel tu t'es à un moment intéressé, notamment à travers ta formation en hypnose ou à travers tous les outils auxquels tu t'es formé ?
La réponse est oui, je suis complètement hypnotisé par ma collègue parce que l'enfance, moi je travaille en homéopathie, beaucoup, énormément.
Et, sur l'enfant intérieur ?
Sur l'enfant intérieur, les blessures de l'âme, et ça remonte à loin et c'est tout à fait complémentaire. Donc l'outil moi que j'utilise, c'est l'homéopathie énergétique, on en a parlé, on en reparlera une autre fois, mais c'était écouter ce que fait Bénédicte avec cet outil et toutes les subtilités que peut apporter l'hypnose dans pour redresser, on va dire, on peut dire ça comme ça, hein, redresser.
Oui, permettre à l'enfant de se libérer de ses blocages.
De lâcher prise, de libérer. C'est comme moi, en homéopathie, où je libère les barrages transgénérationnels.
Et pas finalement être dans ces schémas répétitifs.
Tout à fait. Voilà. Tout à fait.
Parce que ce soit dans la vie fœtale ou l'enfant de ses 0 à 3 ans, s'il lui arrive des traumatismes, et bah plus tard dans la vie, ils vont se reproduire à travers d'autres choses, voilà. En fait, c'est ça ?
On parle en fait au niveau de la vie fœtale, c'est pas aussi clair que ça, évidemment. On parle d'empreintes émotionnelles, c'est-à-dire que c'est comme des petites touches, hein, comme l'homéopathie. Voilà, il y a des petites touches qui se mettent et qui vont donner au fil du temps et en fonction du vécu de l'enfant et en fonction de sa qualité d'être. C'est-à-dire que si c'est un enfant très émotif, évidemment, l'impact va être aussi très important. Donc, ça va donner des troubles de la personnalité, mais pas forcément des psychoses, hein, mais des troubles de la personnalité. Ça peut donner un enfant qui est mal dans sa peau, ça peut donner un enfant qui n'a pas confiance en lui, ça peut donner un enfant qui va faire beaucoup pipi au lit, hein, qui va être très, très régressif à ce niveau-là. Ça va être un enfant qui va avoir du mal à communiquer avec les autres, bon, etc. Des troubles du sommeil, des troubles des apprentissages, enfin bon.
Des angoisses.
Du langage aussi.
Du langage, absolument, oui, bien sûr.
Oui, le bégaiement, finalement, est-ce que c'est un problème qu'on peut corriger ?
Très bien.
Par l'outil hypnotique ?
Très bien. Le bégaiement, c'est vraiment, globalement, je pense là à 5 enfants qui se sont vraiment transformés avec l'hypnose autour du bégaiement. Parce qu'en fait, le bégaiement, l'enfant est stressé et donc il inverse sa façon de respirer. C'est-à-dire que plutôt, normalement, on inspire et on parle sur l'expire, l'enfant va se mettre à parler sur l'inspire. Et donc, il n'est plus du tout calé sur un rythme normal, entre guillemets. Et donc, ça va donner des difficultés pour la verbalisation. Donc, en travaillant sur le stress, en travaillant sur la confiance en soi, en travaillant sur un certain nombre de choses, l'enfant transforme vraiment son bégaiement, hein, le libère.
Oui, c'est comme si on reprogrammait inconsciemment le fait qu'il puisse...
On permet la libération.
D'accord.
On permet la libération et ce qu'on appelle l'induction en hypnose, c'est-à-dire qu'on va proposer à l'inconscient de l'enfant, où il va se proposer, puisqu'on parlera d'auto-hypnose pour les enfants, il va se proposer une affirmation positive qui va venir transformer tout cela.
Alors justement, tu me fais une belle transition. Comment ça se passe une séance d'hypnose avec un enfant ? Est-ce que justement les enfants sont peut-être encore plus réceptifs que les adultes à l'hypnose, sachant qu'on sait que les enfants sont toujours dans leur imaginaire, ils sont finalement très très connectés à leur inconscient ?
Oui.
Juste Bénédicte, et son appel enfant, de quel âge à quel âge ? Tu as 2 catégories de... enfant, adolescent.
Alors globalement, l'hypnose pour un enfant, ça peut démarrer autour de 6 ans. C'est vraiment un travail avec la maman principalement, puisque l'enfant est quand même longtemps fusionnel avec sa maman, bien que le papa ait un rôle extrêmement important. Surtout à partir de 6 ans. Moi, je fais des séances d'hypnose pour les enfants, de toutes petites séances d'hypnose, bien sûr, hein, avec un accompagnement très, très proche des parents pour un enfant. Et donc, oui, un enfant est très réceptif. Avec un enfant, il faut être extrêmement clair, extrêmement précis et extrêmement honnête. Parce que la sensibilité de l'enfant fait que, de toute façon, si on a un doute ou autre, ça ne passera pas. Donc, il faut être très clair avec l'enfant, lui poser les questions qu'il faut, évidemment, c'est très important. Et puis, bien lui parler de ce que l'on va faire, de façon à installer un cadre de sécurité. Et la mise en confiance aussi des parents, cela va sans dire. Et à partir de là, ça se fait très bien. Donc, dans la douceur, et l'enfant est extrêmement réceptif.
Même il prend plaisir, j'imagine, à vivre cette séance d'hypnose.
Bien sûr.
Alors là, tu nous parlais d'auto-hypnose. Est-ce que parfois, on leur donne aussi les outils pour pouvoir réutiliser ensuite l'hypnose, eux, dans leur vie quotidienne ?
Oui, c'est même l'idéal, je dirais. Proposer l'auto-hypnose à un enfant, c'est lui proposer, un, d'être autonome, et deux, de pouvoir être en adéquation avec sa puissance, c'est-à-dire qu'il va potentialiser tout ce qu'il a déjà en lui. Donc, dès qu'il s'approprie l'auto-hypnose, il peut transformer dans ses comportements, dans ses croyances, eh bien, tout ce qui était, on va dire, bloquant en dynamique positive. Alors, ça semble un peu magique, un peu film de science-fiction. Il n'empêche que ça fonctionne. Et précisément parce que ça a un côté un petit peu comme ça, magique, enfantin, ludique, eh bien ça fonctionne. Parce que l'enfant a besoin de rêves. L'enfant a besoin de croire en un certain nombre de choses, mais que lui va installer, bien entendu. Mmh. Hein? Et c'est là toute la différence, c'est-à-dire que l'enfant va aller à son rythme. L'enfant va aller en fonction de ses besoins.
Et puis finalement, c'est comme si il allait, comme tu disais, potentialiser toutes ses qualités pour l'avenir.
Bien
ça
sûr.
En fera un adulte qui ne se limitera pas dans sa manière de penser.
Et surtout qui sera clair avec lui-même, c'est-à-dire que un enfant qui n'a pas confiance en lui, c'est un enfant la plupart du temps qui se met en échec. Et plus il est en échec, moins il a confiance en lui. Donc c'est vraiment un cercle vicieux. À partir du moment où il a une prise de conscience que il s'agit d'une croyance et que cette croyance peut se transformer parce qu'elle n'est pas arrivée par hasard. Mmh. Il se peut qu'il ait entendu « tu es un nul, tu n'es pas capable », etc. Ou que les copains, l'école, enfin bon, il y a plein de choses qui font que. Parce que, bon, les adultes ne sont pas toujours bienveillants, il y en a très bien, mais parfois des maladresses, ne serait-ce que des maladresses. Hein. Eh bien, l'enfant va pouvoir transformer cela en lui. Donc, se mettre dans une dynamique qui va être de plus en plus positive. Et très rapidement, il va avoir un succès. Et dès qu'il a des premiers succès, évidemment, pour lui, il voit que ça marche, il continue.
Oui. La croyance tombe.
La croyance tombe, absolument. La croyance tombe.
Les enfants sont parfois très durs les uns avec les autres. Est-ce que, selon toi, c'est parce qu'ils sont justement pas forcément toujours très bien dans leur peau, avec leur émotionnel ? Est-ce que ça cache une souffrance qu'eux ressentent ?
Parfois oui, mais c'est beaucoup aussi l'environnement de l'enfant, puisque l'enfant va se construire
enfants,
dans son
environnement.
C'est le jeu des
enfants, les différents types d'éducation, je pense. Hein.
Beaucoup, beaucoup. Lorsqu'un enfant vit dans la violence, évidemment, il aura tendance à être dans la violence.
Quand il a des parents qui critiquent, il va avoir tendance à critiquer.
Oui, absolument. Il aura tendance à critiquer, il aura tendance déjà à se critiquer.
Et à juger les autres.
Eh oui.
C'est magnifique finalement de pouvoir rendre toute leur liberté, leur autonomie aux enfants.
Oui, mais toujours dans un cadre sécure. C'est très important.
Alors, est-ce qu'il existe beaucoup de praticiens d'hypnose qui prennent en charge les enfants ? Tu es une des rares personnes que je rencontre qui utilise l'hypnose.
Je ne connais qu'elle, moi. C'est pour ça que je l'ai apportée.
Je pense qu'il y en a d'autres. Hein. Je pense qu'il y en a d'autres. Je pense déjà aux psychologues cliniciens ou autres qui travaillent sur l'accompagnement des enfants. Il y en a même dans les hôpitaux, les cliniques. En revanche, c'est vrai que l'hypnose n'est pas suffisamment utilisée. Parce que l'hypnose est un outil qui va aller ouvrir des portes intérieures pour permettre justement ce travail avec le quanta émotionnel. Et c'est quelque chose de facile, et simplement il faut s'y pencher. Et malheureusement, il y a encore trop de croyances négatives sur l'hypnose. Comme tout outil, il faut savoir bien l'utiliser. Et quand c'est bien utilisé, ça donne des résultats formidables.
Exceptionnel.
Oui, oui, oui. Alors bon, c'est pas une baguette magique, bien sûr, hein, mais ça donne quand même d'excellents résultats.
Alors, pour quel type de problématiques les gens peuvent-ils finalement t'envoyer ou venir avec leurs enfants dans ton cabinet ?
Il y en a énormément. Déjà, les enfants qui n'ont pas confiance en eux, les enfants qui vivent avec du stress, les enfants qui sont en échec, les enfants qui ont des troubles du comportement, de la personnalité. Alors bon, évidemment, je ne parle pas des psychotiques qui ont vraiment besoin de structures plus importantes. Des enfants qui ont des handicaps. Alors, c'est pareil, plutôt un handicap physique, qui sont mal dans leur peau. Il y a aussi tout le passage de l'enfance à l'adolescence, qui est un moment fragile et où souvent l'enfant est mal dans sa peau. Hein. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. L'enfant est mal dans sa peau. Il a du mal à intégrer ces gros changements hormonaux, hein, ces gros changements physiques. Il y a quand même beaucoup de choses qui se jouent à ce moment-là et c'est un virage qui doit être pris de la meilleure façon
clé,
qu'il soit.
Il y a la puberté. Hein.
Ben, c'est la puberté, bien sûr. Ouais. Ouais.
C'est clé.
Ouais. Non, c'est une période très difficile. Hein. Ouais. Je ne sais pas toi, Emmanuel, comment tu étais à 12 ans.
Comment j'étais à 12 ans, j'étais en 6e, sage et réservé. Voilà, petit
peu... Ah oui, rien à voir, plus rien à voir.
Introverti. Voilà, alors l'hypnose a beaucoup transformé les choses. Enfin, c'est un grand parcours. Après, voilà, réservé, je dirais. Très, très réservé. Très timide, très réservé.
Bon, alors, en tout cas... Mais...
Toutes les problématiques de peau aussi. On a de très bons résultats avec l'hypnose.
Sur l'acné ?
L'acné, les problèmes de peau, les psoriasis, l'eczéma, toutes ces choses, ouais.
Qui viennent souvent, de toute façon, de la sphère émotionnelle.
Absolument.
L'asthme aussi. Tout ce qui est ORL.
Ouais.
C'est fou, moi j'ai, bon, je vais prendre encore une fois un exemple personnel, mais les auditeurs sont habitués, j'ai mon frère qui a commencé à faire de l'eczéma à 3 ans, parce que ma mère, je sais plus, lui l'avait confié à quelqu'un, et tout d'un coup, le fait de se retrouver privé de sa maman, voilà, il a fait une énorme crise d'eczéma, et donc là il vit aux États-Unis depuis 4 ans et il est plein d'eczéma, donc l'autre fois je lui dis, tu sais, il y a peut-être un lien de cause à effet, et il me dit, non mais arrête tes conneries, je crois que je vais le brancher sur Radio Métis quand même, mon frère devrait être le premier à écouter ça, ne serait-ce que pour trouver des solutions. Il y a des choses qui paraissent tellement évidentes comme ça, et puis
mais c'est toujours plus facile de voir quand c'est pour les autres.
Ça c'est vrai, on est toujours très aveugle avec soi. Alors ma chère Bénédicte, est-ce qu'on peut te retrouver sur un site internet si les gens ont envie d'en savoir plus, pourquoi pas te contacter?
Oui, bien sûr, alors donc déjà sur le site de l'ECH, École Centrale d'Hypnose, hein, et puis sur mon site Carobel Formation. Voilà.
Donc on affichera l'adresse ce soir, je vais m'en occuper en rentrant pour que les auditeurs puissent avoir toutes les infos.
Tu peux appeler quand même comment tu écris Carobel Formation.
Carobel Formation.
Alors en tout cas pour tous les parents, bah, peut-être qu'ils sentent que leurs enfants rencontrent des difficultés.
Et adolescents, un coup de pouce, voilà, parfois, enfants, deux fois dans une épreuve de vie. Ou quand, surtout, juste un petit mot avant de quitter, quand les parents se séparent beaucoup...
Ah, il y a des deuils à faire.
Voilà, c'est de plus en plus fréquent.
Bien sûr.
Moi je peux l'accompagner en hypnose, mais surtout en homéopathie. Mais surtout, moi, Zé Bénédicte me fait remarquer à chaque fois, avec les séparations, les enfants, c'est souvent de plus en plus jeunes. Et ça marque, et après ça laisse des traces, parfois indélébiles, mais qu'on arrive à faire sauter.
Oui, les parents ont parfois la sagesse de faire soutenir leur enfant par un thérapeute. Et évidemment, ça aide l'enfant, parce que c'est un deuil à faire.
Ben voilà, on arrive
sinon,
à transformer...
ça viendra le conditionner aussi, lui, dans sa vie affective, j'imagine.
Mais on peut transformer ces choses-là.
Ou pas forcément. Là, c'est peut-être une croyance.
Pas forcément. Tout dépend de la façon dont ça se passe. Hein. Il y a des parents qui ont la sagesse de faire les choses de telle façon que l'enfant le vit relativement bien, on va dire. Mais il y a toujours un deuil à faire.
Mais quand même, tu peux dire qu'il n'y a pas de 36 000 séances dont l'hypnose permet.
Ah non.
C'est important de le dire parce qu'il y a des parents qui peuvent écouter, oui, bah, si c'est pour faire autant de séances que chez ma psy ou d'autres, qu'il y a des bons psychothérapeutes et des psychologues, des psychiatres ou psychanalystes, mais ça a quand même une efficacité plus...
Oui,
On va plus dans la profondeur. Hein,
en fait, l'hypnose fait partie des thérapies brèves. Donc l'hypnose, d'une façon globale, une thérapie brève, c'est entre 6 mois et 1 an. Or, avec les enfants, il n'y a même pas besoin de tout ça. Moi, globalement, en général, je pars sur 3 séances. Souvent, ça suffit largement, et parfois plus.
Car les enfants intègrent plus facilement.
Oui, et puis surtout, on va cibler vraiment le problème et là où l'enfant a besoin de soutien. Après, en tant que thérapeute, j'estime qu'il y a vraiment beaucoup de choses à voir, à ce moment-là, il faut en parler avec les parents et avoir un suivi différent. Hein, parce que en tant que thérapeute, il n'y a pas que l'hypnose. Donc, il y a la thérapie classique, il y a d'autres outils. Et parfois, c'est nécessaire quand l'enfant a de gros problèmes. Mais c'est vrai que l'hypnose donne de très bons résultats.
Bon, en tout cas, c'est une des pistes possibles. On était très contents, là, de pouvoir en parler.
Tu as plusieurs casquettes aussi. Tu te caches aussi. Tu es aussi psychothérapeute.
Ben oui, voilà, bien sûr.
Tu as beaucoup de casquettes. Donc, tu as plein de boîtes à outils. Tout comme moi et d'autres.
Important. Il est important d'avoir une bonne boîte à
outils. Tu n'es pas qu'hypnothérapeute.
Et puis d'avoir une belle présence comme tu as là. C'est vrai qu'on se sent un peu hypnotisé là.
Ah ben, c'est une lumière. Je sais pas comment. Voilà, non, les enfants sont très vite en confiance.
Il faut aimer les enfants, bien sûr. Hein. C'est difficile de faire ce métier si on n'aime pas les enfants. Moi, j'aime les enfants, je trouve qu'ils ont une puissance extraordinaire, ils ont beaucoup à nous apprendre.
Ah oui, beaucoup, beaucoup.
Et surtout, ils ont un enthousiasme sans limite, ça, c'est trop bon.
Et oui.
Celle-là, on va chercher souvent les solutions, voilà, pour conclure. Ils nous apprennent, ils ont beaucoup à nous apprendre, je reprends ces propos.
Oui.
Bénédicte, un grand merci.
Merci beaucoup de cette invitation.
Emmanuel, écoute, je grand te dis merci. À demain oui. Bah, pour se lancer de nouveau la dans de belles rencontres.
Dernière ligne droite, demain.
Dernière ligne droite.
Je m'excuse auprès des auditeurs, puisqu'on avait parlé d'une nocturne, il n'y en avait pas.
Oui, c'est ça.
Je suis désolé.
On a organisé un apéro, mais on n'était plus là, en fait. Ouais. Bon, en tout cas, on vous embrasse très fort. On vous souhaite un très bon dimanche soir. On vous retrouve demain avec une joie non dissimulée. Très bonne soirée à tous.
Très belle soirée. Au revoir. Au revoir.